10h13 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021. Et aussi, si vous avez envie de réagir, parce qu'à toutes les fois que notre invité passe nous voir en studio, ben c'est un dossier qui génère beaucoup de réactions, des gens qui sont choqués, des gens qui ne comprennent pas pourquoi on n'est pas à l'écoute au niveau politique. Et là, ben justement, c'est un peu une bonne nouvelle dont on vous parle aujourd'hui dans le dossier, mais en même temps, il reste beaucoup de points d'interrogation, puis il reste beaucoup de chemin à faire. C'est Olivier Teasdale, fils de Jacques Teasdale. Olivier qui arrive avec de nouveaux développements concernant la mort tragique de son père, qui est décédé en juillet 2024. Ça va?
Oui, toi, ça va bien?
Yes, merci beaucoup. On suit ton dossier, puis on en a jasé beaucoup dans le show du matin dans la dernière année, puis... Une de tes demandes qui était très, très, très récurrente, ben, t'as celle de rencontrer le ministre de la Santé, Christian Dubé, directement. Mais à la base, tu voulais juste aussi, à un moment donné, parler à un élu.
Exact.
T'sais, rencontrer
exact.
Un député et finalement, ben, t'as réussi à le faire. T'as jasé avec le député de Chauveau, Sylvain Lévesque. Comment ça s'est passé?
Ben, écoute... On dit toujours mieux tard que jamais. Alors, on a rencontré Sylvain Lévesque hier. C'est une rencontre qui est comme sur deux volets. Ça fait longtemps qu'on talonne le ministre de la Santé pour essayer de le rencontrer, puis on veut que M. Lévesque soit la courroie de transmission, donc le député du comté de mon père, mais le mien en même temps, soit la courroie de transmission entre nous et le ministre de la Santé pour enfin avoir une rencontre éventuellement avec le ministre de la Santé.
Ça sert à ça, tu sais, un député d'une circonscription, ben, est supposé être à l'écoute de ses citoyens, puis d'avoir ces discussions-là, puis que si c'est un dossier qui a à être porté plus haut, ben ce soit lui qui le prenne de le porter plus haut.
Exactement. Je pense que c'est son devoir. C'est son devoir de député, son devoir d'élu. On va aux élections voter pour eux, pour les mettre en place, pour qu'ils nous représentent. Puis ce qu'on demande à M. Lévesque, ben, c'est d'être notre porte-parole pour aller vers le ministre, pour dire au ministre, écoutez, on a un drapeau rouge, on a un citoyen qui veut vous rencontrer dans notre comté. On comprend que le ministre a beaucoup de travail, mais comme je vous disais depuis le début, je pense que ça fait un an qu'on dit la même chose. Mm-hmm. D'eau 30 minutes, on ne se trompe pas, ça ne sera pas long dans l'horaire du ministre. On a eu une bonne rencontre, sérieusement, dans le bureau de M. Lévesque. Des choses qu'on a apprises qui sont un peu flagrantes, un peu aberrantes, je dirais, mais qui nous ont permis un peu de décortiquer ce qui se passe en santé actuellement, là, puis ce qui s'est passé dans le dossier de mon père aussi.
Parce que c'était un peu le but aussi de la rencontre, de comprendre certains éléments qu'on n'arrivait pas à comprendre. T'sais. Fait que, tu sais, oui, de porter notre message aux politiques. Mais je sais pas à quel point tu avais des attentes à ce niveau-là, mais le politique a déjà été en mesure de te donner certaines réponses par rapport à certains points.
Exactement. T'sais, comme on parle pour rencontrer le ministre, on est à établir un projet. Il faut écrire un projet avec les articles de loi qu'on voudrait voir changer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le dossier de mon père? Aller chercher les articles de loi qui ont atteint le dossier de mon père puis demander au ministre, mais écoutez, ces articles-là pourraient-elles être revus? Est-ce qu'on peut revoir ces articles-là? Est-ce qu'on peut les modifier? Est-ce qu'on peut les améliorer en apportant des propositions? Vous savez, il ne faut pas juste chialer, il faut aussi apporter des pistes de solutions.
Mais là-dessus, je trouve qu'il y a quand même des questionnements à y avoir, tu sais, de demander aux simples citoyens d'aller cibler des articles de loi. Tu sais, même moi, là, qui ai des nouvelles tous les jours, tu me demandes, OK, tu as un problème? Ouais, c'est quel article de loi? Je ne sais pas où aller chercher tous les articles
Exactement.
De loi, puis... Fait qu'est-ce qu'au moins avec le député Sylvain Lévesque, est-ce qu'il t'a donné plus d'outils que ça?
En fait, il nous a donné de la documentation avec sa directrice de cabinet. Il nous a donné de la documentation. On a regardé la loi ensemble. Et je vous dirais que c'est là qu'un peu mes yeux ont sautillé en voyant certains articles où on apprend dans la loi actuellement qu'il y a une loi qui protège la maltraitance, qui a été mise en place il y a dans les dernières années. On apprend aussi que pour les gens qui maltraitent, il y a des amendes sévères qui sont prévues. Puis ça a été une de mes questions au ministre hier, à savoir... Ces amendes-là sont appliquées à quel moment? Mm-hmm. Puis c'est une réponse qui me surprend parce que ne sont pas appliquées. On n'a aucun moteur. On n'a aucun moteur pour appliquer la loi actuellement. C'est le même principe de dire on a une loi, mettons, au niveau criminel qui empêche de conduire avec des facultés affaiblies, mais on n'est pas capable d'appliquer, fait continuer à conduire avec les facultés affaiblies. Ouais. Fait que ce qu'on dit aux gens qui maltraitent, ben c'est pas trop grave, vous pouvez continuer parce qu'on n'est pas capable actuellement d'appliquer cette loi-là.
C'est particulier.
Un peu, oui.
Fait que, mais est-ce que sur ce point-là, ben c'est un peu là-dessus qu'on va miser pour
Absolument.
Demander une rencontre avec Christian
Absolument,
Dubé?
Parce qu'il faut que cette loi-là qui a été mise en force doit être appliquée. Parce que sinon, ça ne vaut rien de faire une loi actuellement. On reste avec un bout de papier qui a une cinquantaine de pages puis qui nous dit des choses, mais que malheureusement, on n'applique pas. La loi a été faite, puis Mme Lemieux, la directrice de cabinet, me dit que c'était avec des photos, comme celle du dossier de mon père, qu'on bâtit cette loi-là, mm-hmm. parce que des photos comme ça, ils en ont vu eux autres aussi, et ils ne veulent pas que ça continue. Mais par contre, si on ne peut pas appliquer cette loi-là, ça ne nous donne absolument rien de faire le travail pour bâtir une loi.
Mettons qu'on parle du positif, l'attitude de Sylvain Lévesque, de ce que je comprends, ça a quand même été bien. Il y avait de l'écoute, on était en mode solution.
Mode solution, mode réceptif. Écoute, il m'a expliqué des choses. Il comprend, je pense que dans le système de santé, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens actuellement. Il comprend, il voit la même négligence que nous, on voit dans le dossier. On comprend que c'est lourd, le système de santé. Il y a une grosse hiérarchie autour de ça. Puis je vous dirais, même là où est-ce que je trouve positif, c'est que lui aussi, de son côté, comme nous, pour les infirmières qui ont été suspendues dans le dossier de mon père parce qu'ils ont dénoncé, ouais. lui non plus ne s'explique pas pourquoi ils ont été suspendus, parce que la loi, encore là, dans la loi écrite sur la maltraitance, la loi est claire, on ne peut pas suspendre les infirmières. Et ça m'a amené une question, à savoir où était-il à ce moment-là, parce que c'est pas vrai que les gens n'ont pas entendu parler que les infirmières ont été suspendues dans le dossier, ça a été publicisé, ça a été ouais. public. Alors, où était-il tout le monde à ce moment-là? On sait que la loi existe. Des Stéphanie Robert dans ce monde-ci qui a été suspendue, qui a perdu du salaire parce qu'elle a osé dire ce qui était arrivé à mon père. Pour nous, c'est pas acceptable qu'une entité comme le CHU de Québec suspende ces jeunes femmes-là puis leur donne plus de salaire parce qu'ils ont osé dire la vérité.
Y a-tu demandé à Sylvain Lévesque, hey, t'étais où pendant tout ce temps-là? Tu sais, je comprends que tu veux quand même arriver là puis être en mode collaboration, enfin il a accepté de te rencontrer, mais ça doit te tenter aussi de dire. Hey man, t'étais où?
Ce que je peux vous dire, ce que j'ai répondu à sa directrice de cabinet, c'est que quand elle m'a mentionné que ça fait. Ils l'ont appris la semaine passée que je voulais les rencontrer. Je pense que depuis un an, ça fait assez longtemps que je vous talonne, vous n'avez pas appris ça cette semaine. Ouais. Il y a beaucoup de politique, il faut comprendre la politique, il y a beaucoup de politique dans ça. Par contre, bon, on a eu la chance de le faire, puis c'était un devoir d'aller rencontrer le député parce que ça fait longtemps qu'on le demande. Puis je pense que la rencontre peut être constructive, mais aussi il y a des questions qui restent. Toujours sans réponse, à savoir pourquoi cette loi-là, malheureusement, n'est pas appliquée actuellement par les entités comme le CHU de Québec ou peu importe, le ministère de la Santé ou MSSS ou OCIUS.
Dans ta publication Facebook où tu détailles un petit peu la rencontre que tu as eue avec le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, tu dis que pour lui, il y a deux réalités. Le terrain où l'on voit au quotidien des situations qui n'ont aucun bon sens dans le réseau de la santé et le politique où l'on peut agir en modifiant ou en adoptant des lois. Ça, il t'a clairement dit ça.
Exactement.
Un peu dans le sens de... Ouais, ben c'est sur le terrain que ça se passe, mais nous autres, on peut pas nécessairement faire grand-chose avec ça pour le moment.
Ce que je comprends du député actuellement, c'est qu'il constate, parce que des membres de sa famille travaillent dans le réseau de la santé, il est au courant que ça n'a pas de bon sens le quotidien en santé, qu'il se passe des choses dans le système de santé, au même titre que sa directrice de cabinet, comprenne que de la maltraitance, ça existe. Puis à un moment donné, si vous voyez dans ma publication, je reprends les mots du député où il dit « des cabochons qui vont maltraiter des gens, il va toujours en avoir malheureusement ».
Peu importe la loi.
Peu importe la loi, mais... Si on commence à appliquer la loi, comme je disais hier, peut-être qu'il va en avoir moins de ces gens-là qui vont maltraiter les gens. Je pense que tout part de là. Puis le député en est conscient, je pense que son bureau en est conscient, mais maintenant, il faut qu'il transmette le message au ministre de la Santé pour que tout ça change ensemble.
Mais justement, tu parles de transmettre le message au ministre de la Santé, Christian Dubé. Tantôt, tu me parlais un peu de ce que tu devais faire, d'aller cibler des articles de loi puis de préparer des documents. Ce que te connaissant, j'imagine que tu vas le prendre à cœur puis
exactement,
tu vas le faire.
Exactement.
À quel point ça semblait une vraie ouverture de porte de « Hey, si tu fais ça, ça devrait bien aller, puis tu vas le rencontrer. » Ou si c'est un genre de « Hey, je vais me débarrasser de lui, là, avec son maudit dossier, lequel il nous lâche pas depuis un an. » Moi, il dit de remplir des papiers de la paperasse. Puis encore là, ça va peut-être bien prendre un an avant qu'il finisse par le rencontrer, le ministre.
Bien, si vous me permettez d'être honnête, on sort de cette rencontre-là avec un peu ce que vous venez de dire, c'est... On a l'impression qu'on nous dit des choses pour nous ralentir, hein, pour nous calmer, pour qu'on publie moins.
On achète du temps.
On est dans une année électorale, il faut se le rappeler. On comprend que ce qu'on m'a parlé hier, écrire une lettre comme ça au ministre Dubé, en demandant certaines modifications au niveau de la loi et des propositions, faire un changement, on peut parler d'un 6 à 8 mois pour se faire répondre. Si on s'est tous calculé, dans 6 à 8 mois, on va être en début de campagne électorale pour l'année 2026. Soyons honnêtes, le ministre Dubé a annoncé qu'il ne reviendrait pas. Alors, les chances que ce projet d'écriture-là fonctionne sont minces. Ça va nous apporter, nous, à continuer le combat, puis à continuer d'une manière ou d'une autre. En le faisant, parce qu'on nous a demandé de le faire, puis on va bien le faire, mais on va continuer de talonner le ministre, parce que je pense que sans un bout de papier ou sans une écriture de 3 pages ou 4 pages, on peut rencontrer le ministre puis raconter l'histoire très rapidement. Après ça, il peut lui-même regarder puis faire des changements avec ce qu'on y apportera par la suite. Mm-hmm. Faut prendre le temps de s'asseoir puis d'entendre l'histoire. Parce que si on prend pas le temps d'entendre l'histoire, on peut partir à zéro. Effectivement, comme vous dites, il y a le fatiguant, on va arrêter. Puis lui, on va y fermer le clapet. On va le rencontrer une fois pour toutes. Puis ça va arrêter là. Il faut pas que ça arrête là. Il faut que ça continue de s'améliorer.
Ton plus grand combat, puis je comprends que c'est le même grand combat, mais il y a comme 2 aspects au combat. Il y a le dossier de ton père, Jacques Teasdale, qui a comme été oublié, perdu. On sait. Puis là, il y a un cancer qui a eu le temps de se développer, puis éventuellement de tuer ton père.
Exact.
Puis il y a le côté maltraitance à l'hôpital. Y en a-tu un que tu t'es tenté de pousser davantage, ou pour toi, c'est comme 2 dossiers qui sont sur un même pied d'égalité, puis les deux n'ont pas de maudit bon sens, puis les deux, il faut qu'ils se règlent?
Je dirais que les deux sont unis. L'oubli de suivi, il ne faut pas oublier que l'oubli de suivi a causé la mort, puis la maltraitance n'a pas aidé à ralentir le processus de la mort. Un oubli de suivi d'un plasteur sur un bobo, on s'entend, vous et moi, c'est pas quelque chose qui va marquer notre vie. Oublier le cancer de quelqu'un qui le tuera 1 an plus tard, ben, en fait, 3 ans plus tard, mais 1 an après le diagnostic ou quelques mois après le diagnostic, ça, c'est grave pour moi. La maltraitance, aussi grave, parce que la maltraitance, vous savez, quand on perd notre dignité, est-ce qu'on a vraiment le goût de vivre? C'est la question qu'il faut se poser. On ne l'a pas vécu, personne qui sont encore vivants aujourd'hui ou qui n'ont pas vécu ce genre de choses-là. Mais je pense que perdre sa dignité au travers d'un grand combat que tu décides de mener, parce qu'il faut se rappeler que débuter un combat à 74 ans contre un cancer des poumons stade 4, ça prend du vouloir, ça prend du courage. Ouais. On sait que ce n'est pas un cancer qui est facile, c'est un cancer qui est très meurtrier. Le décider de faire ça, moi, je vais mon chapeau à mon père pour son courage. Puis il y a bien des gens qui ont dit « t'as du courage de le faire ». Puis il a décidé d'y aller, comme on dit au poker, « all in ». On va se battre coûte que coûte, peu importe ce que le traitement va me faire. Par contre, d'autre côté, la maltraitance arrive, la perte de dignité arrive. Fait que tu vis avec le fait que les gens t'ont oublié, puis tu vis avec les faits qu'on n'est même pas capable de changer ta couche, puis on te laisse dans tes excréments ou on ne change pas tes pansements. Alors, tout ça réuni ensemble fait que c'est une maltraitance, moi j'appelle une maltraitance aiguë dans le dossier de mon père, qui a amené mon père vers la mort beaucoup plus rapidement.
Sur le plan des enquêtes en cours présentement, on en est où? T'sais, à un moment donné, il y avait une enquête de tel groupe, puis là, une enquête de tel groupe. Là, telle enquête est fermée parce qu'on en est où au moment où on se parle un 23 septembre?
Il faut se rappeler que l'enquête du CMDP, du comité des dentistes, pharmaciens et médecins là, à l'intérieur du Québec, a été fermée parce c'est que ça. Le pneumologue a décidé de démissionner.
Exact.
Ensuite de ça, on a encore 3 enquêtes qui sont ouvertes présentement. On a l'enquête du coroner, hein, qu'on va attendre bientôt. Le coroner, bien bientôt, je vous dirais, soit fin de l'année cette année ou début de l'année 2026, là, on peut imaginer que le coroner va nous rendre un rapport dans ces eaux-là. On a l'Ordre des infirmières qui enquête sur l'infirmière praticienne qui a aussi participé au non-suivi de mon père. Et on a aussi le Collège des médecins. Mais par contre, au Collège des médecins, il s'est ajouté une autre plainte qui est venu du médecin examinateur du CMDP.
Okay.
Le médecin examinateur du CMDP n'était pas content que la plainte se ferme parce que le pneumologue démissionnait, donc plus possibilité d'enquête. Alors, ce que lui fait, le médecin examinateur, à ce moment-là, c'est qu'il a pris une nouvelle plainte qui va s'annexer avec notre plainte. On s'entend qu'au Collège des médecins, ça ne fait pas une nouvelle plainte, mais par contre, ça vient s'ajouter à notre plainte par le médecin examinateur qui dit « Écoutez, là, moi, je vous lève un flag, là, la plainte, là, que nous autres, on trouvait qu'elle était fondée, cette plainte-là. Donc, moi, je vous dis que je veux vous investiguer sur cette plainte-là aussi. » Donc, c'est un médecin qui vient appuyer notre plainte au niveau... Celui qui était le médecin examinateur pour le CMDP vient appuyer notre plainte au niveau du Collège des médecins.
Sur le plan judiciaire, est-ce qu'on attend justement la conclusion de certaines enquêtes? On est-tu un peu au bout de notre siège, puis on est prêt?
Je vous dirais qu'on est pratiquement prêt à judiciariser le dossier. On avait toujours bon espoir d'avoir de la communication des autres parties. Malheureusement, c'est un peu comme le gouvernement. On espère toujours que les gens vont s'éteindre, les gens vont plier les genoux, vont décider d'abandonner. On leur a souvent passé le message, il n'y a pas question de ça. On est prêt à déposer. On veut voir ce que le rapport du coroner va dire. Vous savez, avec un rapport du coroner et un collège des médecins, les dossiers qui vont suivre vont venir peut-être appuyer nos demandes aussi. Alors, ce qu'on veut faire, c'est nous autres déposer quelque chose de concret puis aller de l'avant avec un document complet puis des précisions qu'on aura apportées si jamais on devrait se rendre à procès dans le dossier de mon père.
Puis justement, tu sais, tu dis si jamais on doit se rendre à procès, on est à combien de temps ou à combien d'éléments de devoir se rendre là?
Ben, je vous dirais que nous, on est prêts. Je veux dire, c'est dans les prochaines semaines. On s'entend que normalement, si on suit le chemin qu'on suit actuellement, avant la fin de l'année 2025, on va déposer une demande introductive à la cour pour ouvrir les procédures contre le pneumologue, médecin de famille, infirmière praticienne et le CHU de Québec. Donc, ça va être dans les prochaines semaines. On va voir à partir de là. Vous savez, on rouvre une procédure judiciaire qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura un procès. Il y aura peut-être des pourparlers pour des règlements à l'amiable.
Mais,
mais pour l'instant, ce sera déposé comme une poursuite judiciaire.
Parce que il n'y a pas moyen de jaser.
Vous savez, je parlais justement avec mon avocat dernièrement. On disait, tu sais, on a fait des relances dans les dernières semaines, puis on n'a pas de réponse de la part des avocats de l'autre côté. C'est un gambling qu'ils ont décidé de prendre et de dire, ben écoutez, comme je vous dis, je pense qu'ils pensent qu'on va plier les genoux, on va abandonner. Mais ce serait mal nous connaître. Tu sais, je l'ai dit des fois ici, puis la force des radios, des médias de Québec que vous nous avez donné aussi, c'est la parole. La parole fait qu'on continue ce combat-là, puis les gens nous entendent. Puis j'ai commencé seul. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait des milliers de personnes qui nous suivent, qui suivent nos publications, puis les gens nous apportent du soutien. Puis je pense que c'est ce qui nous donne la force d'aller encore plus loin, puis de lire les histoires des gens, de ce qu'ils ont vécu. Des choses comme mon père, d'autres choses différentes, mais qui se ressemblent. Alors, ça nous donne la force de continuer, puis de dire, on va arriver à quelque chose d'intéressant pour tout le monde à la fin de ça.
Ton avocat, des fois, il trouve-tu que tu publies beaucoup puis que tu vas beaucoup dans les médias? Des fois, il dit-tu, Oli!
Mais je vous dirais, j'ai un excellent avocat. On a une super bonne relation ensemble, je vous dirais. Je vous dis, Olivier,
celle-là.
Parle-moi donc avant. Moi, je l'aime, celle-là. Mais on se complète vraiment bien. Puis il est très transparent. Je suis très transparent avec lui. Puis on ne jouera jamais un jeu de cachette. On a décidé que ce dossier-là serait public. Puis je voudrais pas qu'on commence à cacher l'information sous prétexte qu'on veut se rendre à court pour dire « Ah, oh, on va passer à court. » Vous savez, le débat à court, ça va être un juge, des avocats, puis des spécialistes, puis des ci, puis des ça. Ils vont nous entendre. Ils vont entendre d'autres parties s'il y a procès, comme on disait tout à l'heure. Mais entre-temps, on a décidé, puis mon père voulait qu'on le rende public, puis pour lui, on va continuer de le rendre public. Mon père nous disait toujours, même si ça fait mal, même si ça t'écorche au passage, même si ça te donne encore plus de pouvoir, même si ça donne encore plus à ton dossier, continue toujours de dire la vérité, puis de le faire, puis de bien le faire.
Olivier Tézel, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Au retour, Louis Martin, conseiller municipal sortant du district de Cap-Rouge-Laurentien, maintenant candidat pour le parti de Sam Ahmad, Leadership Québec. Le Point Max.